Josette. Je m'appelle Josette. Josette Huffen. Mon nom s'écrit avec un umlaut, car mon père était allemand. Je dis « était », car je suppose qu'il est mort. Je ne l'ai jamais connu. Il n'a jamais donné de ses nouvelles. Je suis née le 31 décembre 1943. Maman, petite Française insouciante, a vécu le parfait amour jusqu'au départ de mon père pour le front de l'Est, peu après ma naissance. À la Libération, elle a été tondue par de zélés patriotes, dont un certain Marcel Petiot, lieutenant autoproclamé de la FFI, résistant de la 25e heure. Il s'est illustré surtout par ses crimes. Maman m'a raconté tout ça. Les soirs de déprime, elle buvait un peu. Ses confidences étaient douces et mélancoliques. J'ai conclu de la triste histoire de maman que les hommes les plus intransigeants sont souvent ceux qui ont le plus de méfaits à cacher. Petite fille, j'ai été la tête de turc de mes condisciples, qui me surnommaient la Chleu, la Boche ou la Fridoline. Mes maîtresses d'école aussi, à chaque occasion, me reprochaient l'amour de mes parents. Par contre, certaines de mes voisines de classe, dont le père avait fait fortune entre 1939 et 1944, étaient tranquilles. Je n'ai jamais cherché à savoir ce que mes copines d'école sont devenues. Malgré les brimades de toutes sortes, j'ai eu mes deux bacs. Ma mère était très fière de moi. C'était en 1962. Ça ne l'a pas empêchée de mourir en 1964. Elle ne s'était jamais remise de son chagrin. Institutrice, elle avait été renvoyée de l'éducation nationale. Une fonctionnaire vivant avec un homme, on disait à la colle, avait toutes les chances d'être fichue dehors. En plus, avec un occupant, de surcroît fille-mère, elle a survécu de petits boulots tant qu'elle a pu. Et puis, elle me laissait seule. La famille ne nous a jamais pardonné la nationalité de mon père et n'a jamais cherché à nouer le moindre lien avec moi. J'ai cessé mes études et je suis entrée à la poste. À l'époque, on disait les PTT, poste, télégraphe, téléphone. Je m'y sentais bien, je distribuais le courrier et les allocations familiales. On disait les allocs. Je me sentais utile pour la première fois de ma vie. Les gens m'attendaient, m'ouvraient leurs portes en souriant. Les collègues étaient chaleureux. J'ai été mutée boulevard Brune à Paris. J'ai pu obtenir un petit appartement assez facilement près de la porte de Vanves. Un quartier agréable, 14e arrondissement. Avec un marché aux puces tout près, j'aimais bien chiner, retrouver des bricoles anciennes abandonnées par leurs propriétaires et sauvées de l'oubli par les biffins. C'est là que j'ai connu Noureddine. Kabyle, un magnifique regard bleu triste. Il avait dû quitter l'Algérie en catastrophe. On l'appelait le Harki. Je n'ai jamais su la signification de ce mot. Il ignorait si sa famille avait survécu, perdu le contact. Quand il me parlait de son pays, sa nostalgie était si poignante que je l'en aimais encore plus fort. Il avait une voix grave et pénétrante. Je n'avais jamais été amoureuse avant lui. Un jour, il me dit qu'il allait émigrer en Argentine. Un grand froid a envahi mon dos et ma nuque. Il ne supportait pas tout ce racisme à son encontre. Les chefs qui lui parlaient comme à un chien. Ils aboyaient les ordres. Les flics qui le contrôlaient sans arrêt. Les autres Algériens qui le traitaient comme un renégat. Je lui ai dit que je voulais partir avec lui. Avec un grand sourire très doux, il m'a alors expliqué qu'il partirait le premier. Dès qu'il aurait une situation stable, un logement décent, bref, un avenir pour deux, il me dirait de le rejoindre. Le temps de faire les papiers m'a semblé horriblement court. Pour une fois, les lenteurs administratives me paraissaient une bénédiction. Noureddine était charmant. On n'a jamais vu un amoureux plus respectueux et attentionné. Je haïssais et j'aimais en même temps ce pays qui allait m'arracher l'homme de ma vie et où j'irais un jour le retrouver. Tous les week-ends, nous nous promenions main dans la main, imperméables à certains regards de travers. Nos nuits, ah nos nuits, j'aurais aimé qu'elles ne cessent jamais. Et puis un jour, il m'a dit que tout était prêt. Les billets d'avion coûtaient à l'époque un prix exorbitant. Il allait prendre le bateau, un cargo. Au pied de la passerelle d'embarquement, il m'a embrassée et promis de donner vite des nouvelles. le retour en train du Havre à Paris a été un brouillard puant. La solitude et son froid ne connaissaient que la trêve de l'espoir du courrier. Chaque matin, j'espérais une lettre d'Argentine, la lettre qui allait me libérer de cette lourdeur. Heureusement, il y avait mon travail. Ironie du sort, j'apportais chaque jour à des inconnus des missives de leurs proches et rentrée chez moi, je me précipitais vers une boîte aux lettres désertique. Mais je l'aimais, ce métier. Je savais que, non loin, et dans peu de temps, un collègue allait m'apporter l'enveloppe avec l'écriture de Noureddine. Noureddine, où était-il pendant ce temps ? Il me manquait. J'avais faim de lui. Les années se sont succédées, toutes semblables. Mon attente n'a pas faibli. Ma faim n'a pas été rassasiée. Jamais je ne me suis sentie concernée par la séparation puis la réunification de l'Allemagne. Le mur de Berlin ne m'a pas émue, sa destruction non plus. L'image du président français et du chancelier main dans la main ne m'a pas touchée. Tout cela ne me rendait pas mon père. Personne n'est venu présenter d'excuses aux enfants malmenés par l'histoire. La semaine dernière, mes collègues ont fêté mon départ en retraite. J'avais réussi à prolonger jusqu'à 65 ans, mais l'administration a fini par me rattraper et s'est rappelé à mon bon souvenir, m'autorisant à faire valoir mes droits à la retraite. Tu parles. Pour une fois que je reçois une lettre, c'est pour me fiche dehors. Et toujours pas de courrier d'Argentine. Il a dû m'oublier. Se marier avec une de là-bas. J'ai compris. Il ne m'écrira pas. Je ne recevrai jamais de ses nouvelles. Je ne sers à rien ni à personne. Alors ça suffit. Je me suis acheté 2 bouteilles de champagne, du meilleur, et 1 boîte de somnifères. Je veux qu'on n'accuse personne. Je n'ai plus envie d'attendre. Ma seule peur est de me louper et de me réveiller. Voilà, monsieur. On a retrouvé cette lettre sur la table. Elle a roulé près de l'entrée. C'est moi qui ai donné l'alerte. On pense qu'elle devait être morte depuis un bon mois. Ce qui m'a intriguée, c'est l'accumulation de papier dans la boîte aux lettres. Ça ne lui ressemblait pas. Au début, j'ai cru qu'elle avait fait un petit voyage pour les fêtes, ou pour son départ en retraite. C'est son collègue de la poste qui m'a dit qu'elle venait juste de la prendre. Alors je suis montée, je vous dis pas le spectacle. Et l'odeur ! La pauvre. Toujours aimable, souriante, et chaque année un petit billet pour les étrennes. Elle était très vieille France. Si on avait que des locataires comme elle dans l'immeuble, le métier de gardien serait toujours chouette. Ben oui, si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous avez le droit de savoir. C'est vous le nouveau locataire ? Faudra pas croire tous les ragots. La vérité, il n'y a que moi qui puisse vous la dire, puisque j'étais là. Mais faut pas vous inquiéter, on a bien tout nettoyé, nickel, et même on a changé le linoléum. À ce propos, j'arrive au plus terrible de l'histoire. Tenez-vous bien. Quand j'ai voulu changer ce revêtement de sol, il était un peu décollé vers la porte. Eh bien, vous ne devinerez jamais. Juste en dessous, près de la porte d'entrée, il y avait une carte postale et quelques lettres. Postée d'Argentine, fin des années 60, début des années 70. Je les ai lues. Son amoureux lui annonce fièrement qu'il a créé une entreprise de pâte à papier. Puis, il lui raconte que ça tourne bien et qu'il pourra bientôt acheter un logement. Il y en a une où il lui raconte la maison qu'il a trouvée. Il la lui décrit et lui propose de venir l'y rejoindre pour qu'ils soient enfin heureux ensemble. Par la suite, il s'étonne de son silence. Dans la dernière, il pense qu'elle s'est mariée avec un autre. Il lui souhaite d'être heureuse. Vous vous rendez compte ? Tout ce temps, elle a vécu en marchant sur le courrier de son amoureux. C'est un collègue bien intentionné qui lui glissait les lettres sous la porte pour éviter que des gosses ne les chapardent. Ça arrivait de temps en temps. Il ne pouvait pas deviner que le lino était décollé juste à cet endroit. À quoi ça tient ? Si elle avait pu lire la première carte postale, elle y aurait répondu. Il le demandait. Sa vie aurait suivi un autre cours. Le plus surprenant, c'est que quand elle est morte, son corps est tombé juste à l'endroit où il y avait ce courrier. Juste une épaisseur de plastique, vous vous rendez compte ? Allez, monsieur, au revoir. Emménagez bien. Ah, j'allais oublier. Vos clés. Ces 2 petites, c'est pour la boîte aux lettres. Prenez-en soin. Elles sont neuves. Ne les perdez pas. J'ai un passe, mais quand même. Je ne voudrais pas avoir à vous en donner des nouvelles.